je vais appeler Elvire, Claude, Olivier, Philippe, Gilda, moi, Luc, Manuel qui n'est pas là, Marine, et voilà. Donc pendant que tout le monde s'installe, on ne l'a pas dit ce matin, mais il sera là peut-être ce soir. Luc et moi, on a cherché un éditeur toute l'année. Finalement, on a contractualisé avec un éditeur qui s'appelle Rive Neuve. On a obtenu l'autorisation de créer une collection qu'on a appelée En Marge, point d'exclamation. Et les premiers livres qui vont sortir, en fait, il va y avoir la thèse de Pierre Rabou, qui va sortir genre vers mai-juin. Il y aura la thèse d'Olivier Miglior, il y aura la thèse de Christophe Baker, il y aura la version remaniée de la thèse de Tim quand il aura fini de faire la version anglaise sur le punk en Irlande. Il n'écoute pas, mais il l'apprend là. Et nous, on va publier les actes du séminaire méthodologique de l'année dernière avant l'été. Voilà, donc, et puis on va, un jour, on va essayer de publier une sélection de tout ce qui s'est passé dans les journées d'études ces deux dernières années. Donc, il faut juste qu'on arrive à trouver un peu de temps, mais c'est pareil, on va finir par les publier. Voilà. J'ai oublié quelque chose?
Ben non, c'est parfait. Voilà. Je pense qu'on peut démarrer sur l'horizon qui se dessine.
Voilà, donc l'idée de la session qui arrive. Après, vous avez une petite surprise en conclusion qui n'est pas dans le programme, qu'on a décalé, vous verrez. C'est de vous présenter un peu le travail qu'on va faire l'année prochaine, à la fois thématique ici à FGO et sur le territoire, sur les scènes locales. Et donc, c'est nous qui commençons, c'est pas poli, mais il n'y a pas le choix, c'est dans l'ordre chronologique, avec la journée qu'on organise à Issy-les-Moulineaux samedi prochain, voilà, et qui porte sur authenticité, pureté et hybridité de la scène punk en France. Vas-y.
Oui, ben, j'en ai déjà dit deux mots ce matin, donc je ne vais pas m'étendre longuement, mais c'est une question qui traverse de toute façon pratiquement toutes les autres journées d'études, qui renvoie également à la définition de ce que peut être le punk d'un point de vue musical, de genre. Donc on a décidé de regarder, d'interroger la manière par laquelle le punk était nourri ou lui-même réinvestissait d'autres genres, pouvait s'hybrider. Ben, j'évoquais la question du reggae, mais il y a les relations avec le métal. Il y a aussi la déclinaison du punk sur des courants street punk, oi, etc., hardcore, screamo, etc., jusqu'aux courants les plus actuels. Donc en fait, c'est une première réflexion parce qu'on ne l'avait jamais vraiment eu véritablement. Et puis la journée ne se suffira pas elle-même, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est une première salve, on va dire, pour interroger le punk comme genre musical, mais surtout comme genre en train de se réinventer et de repousser cette idée de frontière, alors que Tim évoquait, mais là, pour le coup, en termes de genres musicaux. Donc voilà un petit peu le propos de cette journée d'études, qui est aussi une manière de fidéliser un partenariat avec Issy-les-Moulineaux que j'évoquais ce matin quand je faisais le bilan de la journée d'Issy-les-Moulineaux. Donc c'est Issy-les-Moulineaux bis, mais sur un autre thème que la banlieue.
Et je rajoute qu'on a été très surpris parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de communication scientifique sur ce thème. Il y en a une dizaine dans la journée, donc c'est la première fois que ça nous arrive. On était très contents, vraiment, il y a des fois, ça a pas de, on pense à un thème et puis il a pas de succès. Et puis là, on a vraiment eu, et puis de gens qu'on connaissait pas forcément, donc on n'avait pas identifié. Donc, je pense que le programme sera bien. Il est en ligne sur le site du projet. Alors ensuite, le 17 novembre, on va à Nantes.
Alors, on va pas tout vous développer. Nantes n'est pas forcément
En fait, je corrige juste, c'est pas la scène locale punk à Nantes, c'est vraiment la scène punk à Nantes. D'accord. Pas locale.
Ok, elle est pas locale.
Non.
Bah, elle va traverser justement, donc avec Gilda, Solveig et Luc, on co-organise la journée. Il y a plein d'autres personnes qui ont donné un coup de main. Je vais aller vite sur ce qu'on attend de cette journée. On voulait vraiment avoir toute une traversée de ce qui s'est passé à Nantes en un peu plus de 40 ans. La parole la plus ancienne qu'on entendra sera d'un groupe qui s'est formé en 79, et la parole la plus récente qu'on entendra sera d'un groupe qui s'est formé fin 2015. Donc on a vraiment essayé d'avoir ce souci, de traverser toutes les générations et d'offrir plusieurs points d'accroche. On aura des animations autour de la journée, hors table ronde. Notamment, Samuel Etienne a préparé un mur des fanzines nantais qui nous racontera ses 40 ans de scène. On a la chance d'avoir des spots d'écoute aussi disposés dans la salle principale. Donc vous pourrez écouter le punk nantais au sens large. Vous aurez aussi un mur d'archives. Alors ce sera un petit mur d'archives, mais on a pas mal travaillé en allant demander aux personnes de participer sur cette idée de nous confier leurs archives. On a fait un appel aux dons d'archives en annonçant la journée. Donc ce sera juste l'occasion. On a remarqué que souvent les gens, quand on leur dit « Est-ce que vous avez des archives ?» Comme archives, c'est une autre mot et pas leur. Ils voient pas du tout ce qu'ils pourraient nous donner. Et souvent ils répondent « J'ai rien, j'ai des lettres, j'ai des flyers. » Et c'est ce qui nous intéresse. Donc ce sera pour donner une idée de ce qui peut être intéressant en termes d'archives. Et le soir, il y aura un concert avec Arnaud Futur, avec Toxic TV, qui est un groupe emblématique nantais depuis les années 90, et avec The Psychotic Unicorn, qui est un groupe récent et qui a pour particularité d'être mixte. Et on avait envie de faire chanter des filles. Pendant la matinée, on va essayer de faire cette grande traversée. On en a pas mal parlé sur tout ce matin, de la question de la transmission, de la question de la manière dont vit la scène. On aura un premier regard à deux voix, de Jérôme Guibert, côté scientifique, et de Thomas, de Toxic TV, qui lui nous présentera comment il a vécu cette scène de l'intérieur. Le regard de Jérôme, il sera vraiment sur la politique culturelle, parce que à partir de la fin des années 80, à Nantes, il y a un investissement colossal de la municipalité sur la culture, et qui va se traduire tout d'abord par une grande ouverture, et puis finalement par une très forte institutionnalisation des lieux et un repli, un rejet d'une partie de la scène punk. Et lui, Thomas, nous racontera la manière dont il a vécu ça de l'intérieur, avec Toxic TV, puis avec un autre groupe, puis avec une reformation. On a aussi beaucoup parlé de reformation de Toxic TV. On éclairera ensuite la scène hardcore avec un témoignage, mais un témoignage qui nous fera deux décennies et demie, peut-être. J'ai avec Mehdi, on peut parler de deux décennies et demie, enfin des années 90 à maintenant. Qui est un personnage, une figure de la scène hardcore et qui peut donner le point de vue du musicien, du membre du groupe, mais qui peut parler aussi en tant qu'organisateur de concerts, qui peut parler aussi au nom d'un label ou en tant qu'animateur d'émissions radio. Donc vraiment un do-it-yourself multicarte qu'il nous présentera. On continuera à parler de transmission, mais dans une toute autre partie de la scène, avec cinq groupes qu'on a choisis parce qu'ils se reconnaissaient les uns les autres comme figures inspirantes. On est parti de Zabriskie Point, donc des années 90. Zabriskie Point a beaucoup inspiré Justine, qui arrive dans les années 2000, et Justine a beaucoup inspiré deux groupes, Chaviré et Heavy Heart. Et en parlant de cette transmission, on parlera pas que musique, parce que ces gens ont des itinéraires communs. Ils appartiennent à la classe moyenne. Ils sont soit fils de prof, soit devenus prof à un moment donné. Et dans ce qu'ils ont transmis, certains chantent en anglais, d'autres en français. Heavy Heart a surtout repris une manière de faire du do-it-yourself et pas forcément un genre musical punk, alors que Chaviré s'inscrit plus dans le punk. Donc on aura vraiment l'occasion d'interroger cette question de la transmission. L'après-midi, on essaiera de voir ce qui se passe autour de la scène. On a un premier atelier qui n'est pas complètement fixé, mais qui est l'idée de faire aussi une histoire des labels nantais, Il y en a eu plusieurs, et sur parfois sur des scènes purement punk, parfois plus hybrides. Quand on parle de la scène, c'est aussi toute une iconographie, des images marquantes. Ça veut dire quoi, photographier la musique? Ça veut dire quoi, capter cette énergie dont parlait Sou tout à l'heure? Et Sou, justement, animera une conversation avec Alexandra Sismil, photographe, pour parler de cette expérience, de ce que c'est que photographier la scène. Enfin, on aura une table ronde sur les filles dans la musique, des filles qui chantent pas forcément. Alors, parmi les filles qui chantent, il y a Claire Bouzig de Stinky, qui à la fois a fait un mémoire sur les voix grôlées et qui aussi participe à un groupe. Et qui avait l'idée de dire, si moi je vais parler de ce que c'est qu'une fille dans un groupe, faut pas que je vienne toute seule, donc je vais venir avec un garçon du groupe qui lui pourra aussi répondre à la question, ça fait quoi d'avoir une fille dans le groupe. On s'est intéressé aux orgas de concert. Ce matin, vous avez eu un petit morceau de Lina qui parlait du premier Ladyfest qui a eu lieu à Nantes. Il était animé par une association qui s'appelle Wonderground, qui a mis la clé sous la porte il y a pas longtemps, dans une déception totale de sa participation à la scène, et qui du coup veut pas en parler maintenant. Mais on a pu, en allant chercher qui elles avaient pu inspirer, trouver une autre association qui s'appelle Girls on Fire, et elles viendront parler de ce que c'est qu'essayer de programmer des groupes mixtes ou des groupes de filles. On aura très probablement, on attend sa confirmation, Johanna qui anime une émission de radio associative. Il y a beaucoup d'émissions de radio associatives sur Nantes de musique. Johanna fait une émission dans laquelle elle parle de musique punk qui s'appelle I Hate Music. Et on a également contacté Karen qui, elle, tient un site internet sur lequel elle essaie de faire vivre les scènes, on va dire, de musique extrême au sens large. Donc on voulait vraiment avoir une multitude de regard sur ce que c'est de participer à la scène. Une fois arrivé là, on recommencera depuis le début. Vu qu'on partira au château, je vous disais, à Nantes, il y a une particularité, c'est la force des politiques municipales centrées sur la culture. Ça devient aujourd'hui plus du marketing territorial lié à la culture. Il y a notamment le Voyage à Nantes, qui est un gros événement estival. Et il y a la dernière exposition du Château des Ducs, qui s'appelle Rock à Nantes, 60 ans de Rock à Nantes, qui est une exposition qui a la particularité de durer quasiment 2 ans, ce qui est assez rare, et qui joue sur cette question de est-ce qu'on peut patrimonialiser la musique, de quoi on parle. Ça a été très critiqué parce qu'on leur a reproché en fait d'avoir fait une exposition sur qu'est-ce qui a été connu ailleurs qu'à Nantes et qui vient de Nantes. Mais ce sera l'occasion de discuter avec eux de ce que c'est le rock à Nantes. Et on le fera avec 3 acteurs qui viendront rendre l'exposition vivante. Un propriétaire d'un disquaire, Fuzz Records, qui a fermé dans les années 90, mais qui a à peu près 30 ans d'histoire, qui a vu passer de nombreux groupes locaux. Nicolas, qui lui a enregistré énormément de groupes dans son studio, qui s'appelle le Garage Hermétique, et qui a prêté énormément d'instruments pour l'expo. Et enfin, Alain Boisseau, de Mickenstein, qui est un groupe de 79 à 81, concernant la musique punk, qui ensuite est plus partie vers le garage et qui en est aujourd'hui au punk celtique. Et voilà pour la journée.
Super, merci beaucoup. Alors après, le 17 novembre, le 1er décembre, on part à Bordeaux.
Voilà, bon, je vais essayer d'être un petit peu synthétique. Donc le samedi 1er décembre, on sera à Bordeaux. C'est une journée que nous organisons avec le soutien. Alors ça se déroulera à la Rock School Barbet, et c'est une journée que nous organisons avec le soutien de la Rock School Barbet, soutien assez important, tant du point de vue de l'infrastructure que également avec l'organisation d'un concert de groupe bordelais et de participants donc de cette scène musicale. Globalement, donc, on est en train de construire la programmation, donc je vais pas la détailler comme l'a fait Elvire pour la scène nantaise, mais globalement, il y aura le schéma que nous essayons de maintenir, l'équilibre entre communication scientifique. Donc il y a d'ores et déjà des collègues chercheurs de l'équipe, d'ailleurs, qui se sont positionnés sur des communications en musicologie, sur l'étude des textes, etc. L'appel à communication va être lancé, donc on espère récupérer d'autres comme scientifiques, et un travail autour des témoignages des acteurs, et globalement, on essaye évidemment de que les trois générations soient représentées. Alors, d'ores et déjà, c'est le cas. Hein, on va retrouver... à témoigner des gens qui sont de la première génération des groupes punk à Bordeaux, ce qu'on appelle traditionnellement à Bordeaux les groupes en ST, hein, Strychnine, Stalag, etc. Quelques témoins, c'est plus compliqué, hein, sur la génération des années 80, et notamment, vous savez que Bordeaux, c'est aussi la ville de Caméra Silence, donc voilà, et des témoins, ce qui est très intéressant, de la scène contemporaine, très actuelle, avec des garçons et des filles. Donc là, je laisserai Manu en parler, puisqu'il était plus particulièrement chargé de travailler sur ces réseaux. Alors quand je dis témoins de la scène, c'est des musiciens, mais pas que, hein, ont été invités à parler pour les trois générations, des gens qui sont vraiment issus de la scène, c'est-à-dire associations, labels, magasins de disques indépendants, radio libre, etc., etc. Hein, donc c'est pas seulement des musiciens. Voilà. Donc Manu, si tu veux dire deux, trois mots sur la partie très contemporaine.
En fait, à Bordeaux, ce qui était surtout intéressant, c'est qu'on avait une orga de filles qui ont fait une centaine de concerts. Là, elles ont arrêté, mais du coup, elles proposent en fait de traduire un documentaire anglais, donc en français, qui parle de la position des filles dans la scène, donc photographes ou copines d'eux, ou enfin bref, toujours des rôles en arrière-plan. Et on va essayer de faire une communication, enfin, en table ronde, quoi, une discussion autour de ça. Et donc, c'était assez important pour nous de leur donner la parole. Et en plus, elles sont très volontaires. Et puis, elles ont quand même organisé quand même pas mal de concerts, donc ça, c'était chouette. Et puis, divers intervenants aussi, comme ils disaient, mais, du coup, des organisateurs, des musiciens, peut-être un doctorant aussi, des personnes, donc, du coup, du Void. Si quelqu'un connaît Feu l'hérétique, du coup, des personnes qui vont parler de ça. Aussi l'Antidote, qu'on a réussi à approcher, qui est quand même depuis maintenant des décennies, organise des concerts toujours avec autant de ferveur. Et puis, voilà, je crois que c'est déjà pas mal.
Voilà, bon, mais on rentre pas trop dans les détails, mais il est clair que Bordeaux, comme d'autres villes, hein, peut prétendre à cette appellation, je mets des guillemets, hein, de ville punk, donc il s'agira d'en discuter. Pour X raisons, hein, et très tôt, et on le verra, il y a aussi des dynamiques peut-être à interroger, la proximité avec Mont-de-Marsan, la proximité par l'intermédiaire du réseau spécifique avec l'Angleterre, je pense aux échanges de correspondants, notamment de type Bordeaux-Bristol. Voilà, là, c'est du vécu, hein, donc qui ont projeté les gens de Bordeaux vers Londres assez précocement. Voilà, donc on discutera de tout ça. C'est en train de s'organiser, c'est en train de se structurer, de se financer, etc., etc. Tu veux rajouter un mot, Solveig? Voilà. Donc c'est une coproduction, je le redis, avec Barbet et notamment Eric Roux, hein, qui est à la tête de cette SMAC, Rock School, ancien théâtre Barbet devenu Rock School Barbet.
Voilà, en janvier, on ne travaille pas. En février, on se revoit ici le 9 février. Alors, plus on avance, évidemment, moins c'est construit, hein, parce que c'est en préparation. Pour une journée, je pense qu'on va l'appeler punk et idéologie. Donc l'idée, c'était d'aborder des sujets un peu glissants. On va, un par an, hein, on va dire, on va y aller doucement. Et donc de se poser la question de la pluralité ou non idéologique de ce mouvement, de ce qui peut aussi la déchirer sur des thématiques idéologiques extrêmement fortes, et essayer d'en parler aussi sans tabou, parce que par exemple on avait des discussions avec Marie de la Fanzinothèque. Eux, ils ont décidé à la Fanzinothèque, et c'est très bien, hein, d'exclure les fanzines d'extrême droite par exemple. Nous, on en a parlé avec Luc, il nous semble que on fait de la recherche, donc on peut se positionner individuellement, mais du point de vue de la recherche, on n'a pas tellement le droit. Et donc, on va essayer d'aborder des questions bien cracra, de le faire aussi en bon entendement, parce qu'il faudra éviter que ça chauffe trop dans la salle. Voilà, bah, ça sera une nouvelle expérience, mais en tout cas, on va bientôt faire publier l'appel à com. donc, on va s'attaquer à la question de punk et idéologie. Un jour, il faudra aborder la question de punk et blanchitude. Enfin, voilà, il y aura des choses à aborder comme ça qui pue. Ensuite, en mars, alors, on n'a pas la date, mais on va te les laisser parler du coup. C'est compliqué de trouver une date,
Olivier,
mais on va la trouver.
Olivier,
c'est surtout compliqué pour eux. Quand mes chers amis me parlaient, oui, on va visiter le rock à Rouen, tout ça, c'est super et c'est génial. Et moi, comme je viens du Sud-Ouest, je me suis dit, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des voisins qui ont une histoire monumentale, c'est-à-dire le Pays Basque, le rock basque. Et moi, je ne suis pas basque, je suis landais, donc je la ferme. Mais c'est une histoire qui m'a, en tant que musicien et même en tant que consommateur de musique, m'a clairement fracassé à l'époque, parce qu'il s'est passé un truc de fou. Et il y a une scène incroyable, et même dans les années 80, avec sous forme d'indépendantisme révolutionnaire et puis révolte. Et je pense que avec en face un gouvernement, on parle d'Espagne, parce que en fait le Pays Basque est coupé en deux, avec un côté espagnol et un côté français. On dit de l'autre côté, surtout ne pas prononcer ça. Et de l'autre côté, il y avait un contexte bien différent avec à cette époque-là, donc tout ce mouvement indépendantiste révolutionnaire et une répression du gouvernement espagnol avec la Guardia Civil qui n'avait pas encore digéré le franquisme, donc qui avait encore des bandes bien mettantes. Bref, c'était un gros bordel, et de là, la jeunesse s'est révoltée, et de là, un mouvement musical, et notamment punk, très punk, a pris, s'est monté avec des groupes et est devenu porte-parole de cette jeunesse avec une force incroyable, des groupes. Voilà, des corps tatous, voilà, qui sont devenus un peu les fers de lance. Il y a aussi la Polla Records, voilà, qui est un peu le Jello Biafra espagnol, voilà, et qui sont toujours en activité aujourd'hui et qui ont drainé derrière toute une vague de groupes incroyables, et surtout toute la jeunesse derrière eux. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, après tant d'années, c'est que c'est devenu un bagage culturel pour chaque Basque. C'est-à-dire que Cortatou est aussi important que les Clash ou que les Beatles. Et ça, c'est pour un mouvement punk avec des productions que certains qualifieraient d'aléatoires, je dirais, dans le formatage du son, c'est mortel. On entend encore Cortatou dans les bars. C'est comme si on écoutait les Pink Floyd, quoi. C'est un réflexe aussi. Et nous, de l'autre côté, non, mais c'est ça qui est intéressant, que je trouve fort. Et de l'autre côté, donc le côté français, alors eux, ils avaient le poumon industriel espagnol, et nous, côté français, c'était plutôt bon, Biarritz, la montagne, les moutons, donc plutôt venez chez nous, c'est cool, quoi. Donc ils nous traitaient de basques de salon. Ceci étant dit, il y avait quand même une identité forte et un mouvement associatif incroyable, avec des concerts que je n'oublierai jamais, en pleine montagne, ces groupes-là venaient jouer. Et il y avait 6 000, 7 000 personnes. Enfin, je ne sais pas, François, je sais que tu as vécu ça et que tu pourrais en parler parce que tu as. Hein, mais tu t'en rappelles avec Church, peut-être. Ou voilà. Et voilà. Et donc, et puis ce qui est intéressant, c'est que malgré la cause basque, quelque part, avec une langue bien incompréhensible pour nous, ça nous a impacté à nous, Français. Et il y a, même au niveau des groupes, ça a influencé. Alors, je ne sais pas si ça a influencé plus loin en France, même si c'était connu, mais ça a influencé tout le sud de la France, tous les groupes. Moi, le premier a été impacté jusqu'à Toulouse ou Perpignan. Voilà, les groupes étaient influencés par ça. Et il y a des gens qui venaient de Toulouse pour aller dans la montagne se taper des groupes-là. Donc, moi, je me disais, c'est quand même important de travailler là-dessus et de réunir ces acteurs parce que l'histoire est très riche. Et dure encore, même dans la tête de chacun. Voilà. Donc, je me suis permis de contacter la Tabale, qui est une SMAC à Biarritz, qui a dit banco, on joue le jeu. Bon, voilà, et maintenant, il faut qu'ils organisent leur planning pour savoir quand est-ce que ça va se faire. Et puis après, voilà, il faut se battre pour mobiliser tous ces acteurs, ou du moins tous les labels, tous ceux qui ont participé. J'espère qu'ils viendront se répandre, et tous ceux aussi qui ont vécu cette histoire-là sans être forcément acteurs. Voilà. J'ai cru comprendre que l'Institut des langues basques était intéressé. Bon, mais ça veut dire que vous êtes dans le vrai, oui, avec votre histoire. Et au moins, ils pourront traduire si ça vient de l'autre côté. Parce qu'en basque, on serait...
Oui, c'est ce que nous a dit François, qu'il fallait prévoir des traducteurs.
Oui, donc. Oui, oui. Voilà. Voilà, donc il y a plein de gens intéressants. Et j'espère qu'on arrivera à les mobiliser. Et puis voilà, et puis
bravo. Après, mais c'est une problématique hyper intéressante aussi parce que tu l'as évoqué. On se situe sur une ère géoculturelle transfrontalière, finalement. Et, ouais, et donc, on parle de punk basque. Voilà, ni français ni espagnol, même si,
ouais, mais sauf si la principale activité s'est passée côté espagnol. Ouais. Voilà, et après il y a eu des groupes qui ont été formés en, mais bon, le gros mouvement est parti de là, bah, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que.
Eh bien, merci Olivier. Donc voilà, la date reste à fixer, on est un petit peu dans l'incertitude, ouais, mais bon, ça va se faire.
Mars ou 10 juin, voilà, bah, on verra. Et mais si en fait, jamais, ça va se faire, ils sont dans les clous et je sais
et
que
si
la table.
Si jamais ça y est pas, on fera une autre journée thématique, oui, voilà, ici. Voilà. Bon.
Mais elle se fera du tout.
Oui, elle se fera, on réagencera le calendrier, c'est pas très grave.
Ensuite, le 18 mai, on va là aussi dans le pays où les gens ont un accent quand ils parlent, on va à Montpellier.
Autre scène décisive.
Alors, on sera à Montpellier donc le 18 mai, c'est un samedi. C'est vrai que Montpellier, dans les années 90, a surtout été connu pour sa scène électronique, les pingouins, etc. Mais la fin des années 70 et les années 80 ont été un moment fort dans la vie musicale montpelliéraine avec des groupes mythiques dont les noms et la réalité musicale existent encore aujourd'hui, puisque certains se sont reformés récemment et tournent. On parlait de cette problématique-là, mais voilà, ça existe aussi à Montpellier. Donc, on en est au début de l'organisation, on n'a pas encore beaucoup de choses à vous dire. La date, donc samedi 18 mai, le lieu, ce sera dans le centre de recherche de l'université Paul Valéry Montpellier 3. L'université est très légèrement à l'extérieur de la ville, mais le centre de recherche est en cœur de ville. C'est des anciens bâtiments qui viennent d'être faits flambant neufs, mais qui datent du 17e. C'est un très joli lieu et paradoxal, mais finalement très approprié pour ce qu'on va faire. On a fini l'appel à communication, on est dans les phases finales avec vous pour qu'il soit prêt à publier. Il y aura un appel à communication, mais aussi, on insiste beaucoup là-dessus, un appel à témoignages, et on va activement explorer tous les réseaux montpelliérains qui existent encore pour qu'il n'y ait pas que des communications type universitaire, comme tu disais, Luc, bien sûr, mais aussi du témoignage. Et autour bien de problématiques assez évidentes, assez classiques, qui vont être la nature de la scène montpelliéraine, d'un point de vue esthétique, bien sûr, mais également en termes d'influence, parce que l'influence occitane est sensible, mais l'influence catalane, et par catalane et également espagnole, peut être sensible. On travaillera tout ce qui est les réseaux locaux, qu'il s'agisse des salles, des disquaires, des tourneurs, des fanzines, de la presse, des radios, etc., bien sûr, et les réseaux explorés dans le sens politique et économique, parce que ça a eu un impact assez important. Et on se tournera, bien sûr, vers le présent de la scène montpelliéraine et de la transmission et de l'héritage entre l'âge d'or et ce qui existe encore aujourd'hui. Alors, en termes de programme.
Oui, donc, en termes de programme, les choses restent encore à définir, mais du coup, j'ai quand même largement activé mon réseau de musiciens. J'ai plus l'accent, moi, hein, vous remarquez. Et du coup, on a la certitude donc, d'avoir plusieurs acteurs très intéressants, dont Phil Messina, donc des OTH. Il y aura également, sans doute, Olivier Deschérifs aussi, qui sera là. Mais aussi, donc ça, c'est la scène vraiment, le début de la scène montpelliéraine. Mais dans les années 2000, il y a eu aussi quelque chose de très prolifique, notamment avec les groupes comme Leptic Ficus ou Cortex qui ont été fondés, qui étaient donc faits par des membres des anciens Cargols de la scène perpignanaise. Donc du coup, on s'assure aussi de leur présence. Il y aura les Leptic Ficus, il y aura les Cortex. Donc on va pouvoir aussi confronter plusieurs générations de punk, dont certaines d'ailleurs se disent qu'ils ont été très inspirés par les Sheriffs. Donc on verra dans quelle mesure tout ça est possible. Donc ça donnera lieu à de très belles tables rondes, je pense. Il y aura également un monsieur qui s'appelle s'appelle Thierry Saleté, qui a écrit un ouvrage sur Mont-de-Marsan, mais qui est surtout un observateur et un acteur de la scène montpelliéraine punk depuis ses débuts, donc il a tout vécu. On va s'entretenir avec lui très certainement avant, bien sûr, cette journée, pour avoir accès à un grand nombre d'archives et à un grand nombre de personnes du réseau, afin que tout ceci soit présent le jour J. Voilà, donc ça promet d'être très très bien, très prolifique, dans un cadre magnifique qu'est le sud de la France. Voilà. Allez, en mai 2019.
18 mai.
Voilà.
Ensuite, juin, eh ben, comme je pense qu'on va faire une journée d'études, peut-être à l'EHESS, on va voir ça avec Estelle, sur mais une journée d'études méthodo qui poursuit notre psychanalyse collective sous forme de séminaire, comme on a fait l'an dernier avec le séminaire Underground, écrire l'histoire du punk et des cultures alternatives. Voilà pour juin. Ensuite, c'est l'été, voilà. Ensuite, en septembre, je sais plus le combien, tu vas nous dire.
Moi non plus.
Ah bon, donc en septembre,
le 24, je crois.
Voilà. Le 24, si c'est un samedi. On va à Dijon. Mmh.
En fait, Dijon, ça va être vite dit. Pour l'instant, il n'y a rien. On commence à travailler. J'ai engagé pour ça un monsieur qui s'appelle Binoche. Alors, donc, monsieur, hein, c'est monsieur Thierry Binoche, c'est pas Juliette, hein, je suis désolé. Et puis également un jeune étudiant qui s'appelle Anatole qui vont m'aider à monter cette journée. Enfin, surtout Anatole d'ailleurs. Peut-être qu'il faudra l'intégrer à l'équipe d'une manière ou d'une autre. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'à Dijon, il n'y a rien. C'est-à-dire que la scène punk à Dijon, elle est pratiquement inexistante. Et le seul groupe qui soit à peu près intéressant, enfin qui est intéressant, c'est Normal Oeil, qui est un groupe de Cold Wave. Autrement dit, à Dijon, ce qu'il y a de surtout intéressant, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a des choses qui se passent dans les villes périphériques. Il y a des choses à Chalon, il y a des choses à Dole aussi, il y a des choses dans des villes comme ça. Donc ça va plutôt s'appeler le punk en Bourgogne-Franche-Comté, pour qu'on aille au moins jusqu'à Montbéliard, etc. Parce qu'autrement, le Kaiser, qui est décédé, donc il ne sera pas là, mais il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin sur lui, donc je vais essayer de contacter cet auteur-là pour voir s'il pouvait venir, oui. Oui, mais Beaune, ce n'est pas Dijon, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on fait à Dijon, c'est pas aussi vivace qu'une ville comme Rouen, qu'une ville comme Rennes. Ça veut pas dire qu'il y avait personne. Mais donc, on va étendre vraiment notre périphérie à toute la Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, qui va nous permettre d'avoir plein de choses qui se passent autour de tout ça.
Notre Philippe lève la main comme à l'école.
À Dijon, il y a quand même un lieu qui s'appelle...
Oui.
Et qui génère énormément de...
Oui. Problèmes. Oui, oui. Je parle de la scène des années 70 originelle. Là, il se passait rien à ce moment-là. Donc on va étendre pour la scène originelle un petit peu au reste. Après, évidemment, il se passe des choses. Aujourd'hui, il y a des tas de salles. Il y en avait aussi à l'époque. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que ça va se faire à l'Athénéum, qui est le centre culturel de l'université, comme salle. Et que lui, il a ouvert en 83. Mais avant, il y avait plein de concerts qui se passaient dans l'amphithéâtre, un amphithéâtre de l'université. Et Marquis de Sade a joué là, par exemple, beaucoup de concerts qui se passaient là. Donc pour l'instant, nous, on est en train de travailler. On va aller chercher les plus petits groupes possibles existants qui ont pu tourner un peu sur cette scène-là. Et je vais essayer d'inviter Norma Eloy à venir faire un concert. Donc je ne sais pas, il faudra qu'on voit financièrement comment ça se passe, etc. Oui, mais il était à Mélodie Massacre à cette époque-là. Non, mais ce que je veux dire, Estelle, c'est que si on parle de la scène originale à Dijon... Moi, j'y étais pas. Moi, j'étais à Lyon. Hein, mais un type comme Thierry Binoche, qui lui y était, me dit, dans toutes mes archives ou dans quoi que ce soit, il n'y a pas grand-chose si on reste sur Dijon. Donc, il faut vraiment étendre la scène originale à toute la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut aller à Beaune, il faut aller à Nuit-Saint-Georges, il faut aller à Chalon-sur-Saône où il y avait une salle qui était intéressante. Il faut aller à Dole, il faut aller à Pontarlier, il faut aller, etc., étendre au Jura et faire un petit peu quelque chose de plus large, un peu. J'y étais un peu comme ce qui s'est fait au Val d'Ajol, où on a vraiment étendu sur une région plus que sur une ville en particulier. Voilà. Après, c'est vrai qu'à Rouen, on parlait aussi du Havre ou de choses comme ça. Voilà où on en est.
Donc ensuite, il y aura notre colloque bilan, sûrement en octobre, et sûrement comme d'habitude, si le partenariat se poursuit avec ici les Moulineaux, donc on verra ce qu'on fait, on n'en sait pas. Et pour finir l'année, on va à Marseille.
Oui, alors... Donc au niveau du titre, Bon, pour l'instant, je n'en ai pas. Je peux d'ores et déjà vous parler du lieu. Donc, on aura le plaisir d'avoir cette journée d'études sur le punk à Marseille, qui aura lieu à la bibliothèque municipale à vocation régionale. Merci, Elvire. Qui est vraiment un lieu extraordinaire, très grand, situé sur le cours Belzunce, donc avec un auditorium de 400 personnes. Donc, les bibliothécaires sont assez contents, en fait, parce que les musiques populaires et amplifiées sont assez peu valorisées. Et donc, ils se réjouissent. Donc, on a à la fois le spécialiste du punk, le spécialiste de la chanson française, le co-directeur du département. Donc, voilà, j'ai plusieurs interlocuteurs qui se réjouissent, en tout cas, de notre venue. Alors, le principe du projet, moi, c'est un peu une réponse à la rencontre que j'ai eue avec Solveig et Luc, quand notamment j'avais entendu Luc jouer, procéder à une périodisation du punk par la musique, par la guitare. Et donc, j'ai toujours eu en tête, finalement, c'est cette question du son. Donc, très simplement, je propose qu'on étudie la périodisation. Donc, bizarrement, on a une première vague du punk à Marseille, et ça, c'est vraiment un scoop. Et dans les échanges que j'ai eus aussi avec les gens de la bibliothèque, ils m'ont dit « Mais Nitrate, Nitrate !» Et Nitrate, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Donc, on a des images. C'est un groupe qui a un peu un statut culte, qui va un peu fonctionner en miroir de ce qui se passe à Paris. Il va y avoir des tags de la même manière qu'on avait des graphes pendant le succès de Lucrette Milk. Ils vont être associés à un quartier, les quartiers nord de Marseille, donc le 15e arrondissement, et en particulier l'Alhambra. Et ce qui va se passer à l'Alhambra, c'est qu'en 78, une association, Manquée Production, va lancer son festival. Donc ça, c'est quelque chose finalement qui est assez peu connu. Donc le but pour moi, c'est d'avoir accès à ces archives. Voilà, donc ici, on a Nitrate. Et alors, je trouve ça assez intéressant par rapport au vent, à l'utilisation du saxophone, et ça peut nous ouvrir aussi des perspectives par rapport aux questions d'hybridation et de métissage qui, je pense, seront au centre de nos... Bon, ben, ça fonctionne pas. Le morceau s'appelle Suzy. Il est sur YouTube. Alors après, donc, au niveau... pour aller un petit peu plus vite, parce que je pense qu'on fatigue tous un peu. Donc, ce qui va être intéressant, en effet, c'est de travailler sur la question des quartiers nord. Il y a un deuxième groupe qui est extrêmement intéressant, qui est l'EDA Atomica, donc Phil Spectrum et moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez. Alors, ce qui est original, c'est que le look est punk. Donc, on a une réception vraiment, on a une performance du punk qui va être opérée. La musique l'est moins. On tire plus vers la chanson, vers le cabaret, vers le burlesque. Et on voit que ces références-là sont filtrées aussi par le Bowie, par le cabaret de Lou Reed ou de Bowie. Donc voilà, il y a une espèce d'affirmation méditerranéenne, parce qu'on a l'accent, mais qui va être filtrée par tout un tas de références culturelles, généalogiques, voilà. Donc ça, c'est pour la première génération. On peut aussi parler de parfums de femmes, de Dustbin Radiation, de Wild Child. Donc finalement, les choses sont assez riches. J'espère que Robert Rossi, qui faisait partie du groupe Quartier Nord, sera là pour dialoguer avec nous, puisqu'il fait partie des spécialistes du rock marseillais. Donc il y a cette question du territoire, il y a une forte revendication territoriale, Massilia Burning, Massilia United Crew. Bon, je ne pense pas évidemment à Massilia Sound System, qui n'est pas exactement dans les mêmes réseaux, mais voilà. Et un aspect qui m'intéressait aussi, c'est que cette question du déclin qui se pose en Grande-Bretagne, à Marseille, elle touche une dimension, mais stratosphérique. C'est la ville la plus pauvre, 40% pratiquement j'exagère, mais je crois 40% de chômage, je crois, dans les années 80. Donc on va vraiment avoir une amplification finalement des questions sociétales qu'on trouve comme l'âme de fond finalement du punk. Donc j'ai parlé de la question de l'hybridité, les noms sont des noms arméniens, des musiciens, des noms italiens. Tout ça va être extrêmement riche, et quand je pense à évidemment Martin Dupont, bon, alors on est dans le post-punk, mais Brigitte Balian pourra certainement nous parler de ça. Alors j'ai mis Fall of Saigon en attendant, parce qu'on a Thierry Den qui jouait donc dans ce groupe montpelliérain, qui fait partie maintenant, enfin qui a ouvert une galerie à Marseille. Donc je me dis, voilà, ça peut être une possibilité, mais c'est à voir avec mes collègues. Voilà. Et pour finir, donc il y a une troisième vague. troisième vague qui serait plutôt liée vraiment à quelque chose de plus proche du son UK-US, donc qui est la vague liée au label Relaxomatique, au Gazole Heads, avec des groupes comme Diagravation. Et donc là, on a vraiment une scène extrêmement dynamique dans les années 90-2000, qui a vraiment planté finalement Marseille dans la carte du punk, et avec une esthétique assez, assez incroyable. Je pense qu'ils seront, intéressés. Je voulais juste dire une dernière chose par rapport à la vigueur de la scène marseillaise. Il faut savoir que sous le mandat du maire Robert Vigouroux, la ville va voir un dynamisme associatif absolument énorme. Et ça va créer des infrastructures qui vont créer des liens entre hip-hop et punk. Alors un exemple, on a la Maison Hantée, par exemple, qui est une salle de concert rock, hard rock, tu connais, voilà, qui a été fondée, je crois, dans les années 80. Et alors IAM a eu son premier concert dans cette salle. Et finalement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se dit, sans les infrastructures développées par le punk, pas de IAM. Alors j'exagère, c'est une provocation, mais voilà, c'est pour vous donner... un aperçu. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je vais juste ajouter un petit truc sur Dijon, parce que l'actuelle adjointe à la culture de la mairie de Dijon, donc l'adjointe à la culture de M. Rebsamen, pour ne pas le nommer, était l'ancienne batteuse de Norma Loy. Donc elle viendra ouvrir la journée, ça c'est quasiment sûr. Et voilà, donc elle a aussi des contacts et des ouvertures possibles. Voilà, je voulais juste ajouter ça.
Moi, j'ai rajouté quelque chose dans le prolongement de ce que vient de présenter Marine sur parce que, évidemment, Marseille, on l'associe pas au punk, pas directement, et sur les points aveugles, est-ce que le projet permet de fouiller alors Marseille? Et je t'informe, et je le dis à tout le monde, qu'on est en train de tisser des liens avec la Corse de manière assez inattendue. Alors moi, j'imaginais pas, à part Padovani, guitariste de Police, pour moi le punk en Corse, ça n'existait pas. Or, il y a peu de temps, on a tourné une télé avec Strychnine, et le réalisateur s'appelle Philippe Apieto, et puis je lui parle du projet, il me dit, mais tu sais, j'ai un copain en Corse, il est en train de faire un film sur son frère Spido, qui était la figure emblématique du punk corse, il est mort, comme voilà, et aussitôt il m'a envoyé de l'archive, et là j'ai découvert le punk en Corse. Et franchement, alors c'est je trouve un petit peu... C'est un petit peu la magie et l'intérêt, je trouve, aussi de ce projet, que d'aller de l'avant sur des zones qu'on n'a pas immédiatement, voilà, comme ça, dont on a immédiatement une représentation très forte par rapport au punk, et peut-être aussi des connexions, pourquoi pas, entre Marseille et la Corse, j'en sais rien, mais c'est ta présentation qui vient de m'y faire penser, et donc il y aura forcément, à terme, pas cette année, mais on prévoit... Voilà, c'est plus qu'un souhait, hein, une journée d'études sur la scène punk en Corse, évidemment. Voilà, sur le vec.
Voilà. On bouge toujours pas parce qu'on est hors zone. Donc les musiciens ont le droit d'aller répéter maintenant, d'aller faire les balances. Pour tous les autres, après promis, on souffle un grand coup.